L'actualité française en termes de cinéma coréen, c'est la sortie de Mademoiselle, qui est sortie le 1er novembre, donc il y a à peine quelques jours. C'est un film que nous avons découvert à Cannes et dont nous avons longuement parlé et déjà longuement débattu. Et comme nous sommes une dizaine autour de cette table et que nous avons tous vu le film et que nous avons tous des avis assez divergents, voilà, sur le film, nous rouvrons ce débat pour enfin y apporter une conclusion. Alors, une petite balise, spoiler, je pense que comme là tout le monde l'a vu, y compris vous, chers auditeurs, je pense qu'on va dévoiler aussi la fin du film. Parler de la fin me semble assez important dans l'appréciation critique qu'on peut avoir du film de Park Chan-wook. Donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, écoutez notre partie sur le FFCP et revenez pour écouter cette partie autour de Mademoiselle. Justin, je crois que tu l'as vu il y a à peine quelques jours.
Oui.
Est-ce que tu peux nous représenter un peu le film en résumant son intrigue?
Oui, donc déjà il faut savoir que c'est adapté d'un roman anglais. Ça déplace donc l'intrigue qui se passe, je crois, dans le roman donc en Angleterre et puis au 19e. Et donc ça le déplace donc dans une période un peu cruciale pour la Corée, devant l'occupation japonaise dans les années 30. Donc le postulat, donc c'est une servante coréenne qui est embauchée chez un aristocrate japonais durant donc l'occupation de la Corée dans les années 30. Et donc en fait c'est un agent infiltré pour un escroc qui va essayer de séduire la nièce de cet aristocrate japonais qui est en fait un coréen naturalisé, donc un collabo. Et donc ce qui va se passer, c'est qu'il va avoir un rapprochement entre cette servante coréenne et la nièce japonaise, donc avec une espèce de trouble un peu lesbien progressif pendant le film. Et donc de toute façon, le film a une atmosphère perverse du fait des goûts de l'oncle japonais, donc qui est friand de littérature érotique et qui fait lire à sa nièce. Donc c'est les passages les plus épicés à des notables japonais. Et donc voilà, il va y avoir un rapprochement progressif entre la servante et puis la nièce, et avec des rapports qui vont s'inverser, dominant-dominé, et une intrigue à tiroir qui va montrer que le postulat n'est pas si évident qu'au départ, au niveau des tenants et des aboutissants de l'histoire.
Alors, quelle est ton appréciation sur le film?
Alors, moi j'ai beaucoup aimé, donc déjà au niveau visuel, c'est vraiment bon, on retrouve le Park Chan-wook qu'on apprécie, donc au niveau du décor, de la mise en scène, de l'inventivité de tous les instants des costumes. Donc il y a vraiment un maniérisme, c'est vraiment très léché, très stylisé, très opératique dans l'ensemble, mais sans que ça tourne à vide. Ça peut rappeler un peu ce qu'il avait pu faire sur son court métrage, si vous vous souvenez, les trois films fantastiques qu'il avait fait en
2004.
En 2004, là, donc, c'était un peu un exercice de style en huis clos où il s'était pas mal amusé. Donc, bon, là, il y a un peu plus d'implication par rapport à ce court-métrage. Et donc, il y a un côté. Alors, certains ont dit qu'il y avait un côté féministe à cause de la tournure que va prendre l'intrigue. Bon, on peut spoiler, de toute façon, il va y avoir une alliance entre.
Il est encore temps de partir.
Voilà.
C'est trop tard.
Vu que dans une seconde partie, on va découvrir qu'il y a une alliance qui s'est créée entre la servante et puis la nièce japonaise contre les deux hommes du film, que ce soit l'escroc et puis l'oncle, les deux hommes dominants. Bon, moi, j'ai pas forcément vu ça. C'est un côté romanesque, forcément, vu qu'une histoire d'amour vient perturber l'arnaque. Mais après, le côté féministe, peut-être pas forcément, vu que c'est un peu comme qu'on peut trouver dans les Pinkuiga où il y a un propos féministe, mais en même temps, c'est très au niveau de l'imagerie, voilà, il y a très.
Les Pinkuiga, c'est super féministe.
Non, non. S'il y a des Pinkuiga, il y en a certains, j'ai pas dit.
En général, il y a des revendications.
Il y a des
revendications féministes après.
Dans certains Pinkuiga, sauf que en même temps, ça n'empêche pas qu'il y ait des scènes, qui offrent à se rincer l'œil. Donc là, c'est un peu la même chose où là, il y a le propos, on pourrait y voir du féminisme, mais en même temps, au niveau de l'imagerie lesbienne. Tout est fait pour affrioler le spectateur. C'est un festival de fantasmes masculins dans l'imagerie.
Enfin,
Donc,
Non mais alors je vais faire une parenthèse parce que du coup on a trois femmes ce soir, donc effectivement, est-ce que vous pouvez rebondir et donner un point de vue plus féminin sur le film, parce que le propos du film dans la mise en scène de Park Chung-wook vous a semblé féministe justement, ou est-ce que le rôle masculin domine encore? Célia?
Pas du tout féministe. Alors, j'ai moyennement apprécié, malheureusement pour moi, ce film ne capitalisait que sur le formel, car justement cette intrigue à tiroir, comme on sait que c'est de la manipulation, il va y avoir coup de théâtre sur coup de théâtre, donc moi je n'ai pas du tout été surprise. En revanche, j'ai été bluffée par tout l'aspect formel, une parfaite interprétation des quatre acteurs, ils sont absolument sublimes. Et Park Chung-wook les a véritablement mis en valeur, magnifiés. Mais en tant que femme, j'ai été très 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 embêtée parce que pour moi, j'avais l'impression d'un réalisateur de 60 ans qui avait envie de s'émoustiller et encore plus. Alors je sais que ça peut choquer certaines personnes, mais pour moi, il n'y avait pas de charge érotique. Pour moi, c'était une charge pornographique. C'était là pour exciter le spectateur. Et pour moi, ça n'était pas utile. J'adore la première scène lesbienne entre les deux femmes, mais je trouve totalement exagéré, voire accessoire, les suivantes. En revanche, effectivement, le film est magnifique, bien léché, tout y est vraiment bien pensé, mais je ne suis pas rentrée dedans.
Bien léché. Merci Elvire.
Mais en fait, c'est ça, ce que je dis, c'est que le truc intéressant, c'est le côté romanesque qui vient perturber le thriller, mais j'y vois pas de féminisme non plus, je suis d'accord, où là, il fait tout, voilà, c'est
alors,
pour...
Alors, elle vient...
Je vois pas trop de féminisme, même si Park Chung-wook lui-même a dit qu'il avait trouvé sa part de féminité en faisant le film. Soit.
Mais ça veut pas dire que c'est féministe.
Non, ça veut pas dire que c'est féministe. J'ai pas du tout vu un film féministe. J'ai vu un film qui essayait de se prétendre féministe tout en mettant en scène des fantasmes masculins. Mais je n'ai pas du tout été, choquée par ça pour autant, en fait, puisque j'en en a beaucoup parlé, Victor, toi et moi. Je pars du principe que de toute façon, Park Chung-wook étant un homme, il aura forcément un regard masculin. Mais ça me choque pas. Enfin, je. Oui, bon, soit. Mais. Si encore il avait prôné le film comme un manifeste féministe, là j'aurais pu dire, oui bon tu déconnes, c'est pas le cas.
Alors moi je trouve qu'il y a quelque chose d'assez dérangeant dans le film, qui est la scène la scène de critique en fait, du regard masculin qu'on peut avoir sur l'érotisation des femmes, et qui culmine dans une scène de destruction des parchemins érotiques.
Presque japonais. Démasculation d'ailleurs,
voilà,
avec le serpent qui est...
Effectivement, et là... La revendication féministe du film se fait dans cette scène-là où les deux héroïnes prennent le contrôle de leurs désirs et détruisent le regard masculin qui est...
Je suis très sceptique des revendications féministes faites par les hommes, de toute façon.
Mais ça, c'est
il y a
ce
toujours un regard
trouve,
biaisé, en
c'est
fait.
C'est ce que je trouve dans cette scène. Et par contre, la fin du film, en accentuant sur l'érotisme féminin vu avec la grandiloquence de la mise en scène de Park Chung-wook, ramène à un regard qui est complètement masculin. Et
la dernière scène est la scène de trop.
La dernière séquence est narrativement inutile, mais symboliquement indispensable.
C'est peut-être celle qui m'a le plus dérangé, et pourtant je suis loin d'être Martin.
Ce qui se passe, c'est que dans la dernière scène, Park Chung-wook utilise un objet qui est utilisé par le comte comme un objet de soumission et d'humiliation sur la petite fille, et les femmes se le réapproprient pour en faire, comment dire, et c'est des bouts de geisha.
Soit plus descriptif.
C'est très fin, c'est subversif.
Non, c'est pas subversif du tout.
C'est pas fin, mais c'est ni fin ni subversif.
Alors. Il faudrait expliquer plus précisément cette scène.
Je vais revenir sur la scène de Victor.
Hashtag boule de geisha.
Parce que sur la scène où tu dis des parchemins, que c'est une scène féministe, ça peut être aussi une scène nationaliste. En fait, on voit deux chorales qui détruisent la culture japonaise, qui est représentée comme culture perverse, dégénérée et tout ça dans leur pays.
Mais justement, c'est pas la culture japonaise. Parce que c'est là, au fait, où le truc est plus subtil. Parce qu'on est dans l'art taisho.
japonaise qui est donc mise aussi en Corée, qui était sous tutelle à l'époque, qui est donc une ère qui se dit progressiste, mais qui surtout s'inspire beaucoup de tout ce qui est esthétique occidentale, et notamment en termes de vestimentaire, en termes de littérature. Et on voit justement que dans le film, les livres qui sont plébiscités par ce notariat japonais-coréen complètement perverti, c'est les livres érotiques comme inspirés du Marquis de Sade.
Et du Jinping Mei, qui est un roman chinois.
Voilà. Mais en fait, tous ces trucs-là, toute cette esthétique, même au niveau des dessins, ça c'est exactement l'équivalent de l'esthétique décadente qui avait eu cours en France entre 1880 et 1900, avec des écrivains comme Octave Mirbeau ou Pierre Louis ou des choses comme ça, ou Huysmans. Et ce qui est excellent, c'est que du coup, dans ce film-là, ils reprennent ce vice occidental, et c'est ce qui crée une atmosphère complètement décadente, et qui fait aussi rappeler la trilogie de Seijun Suzuki qu'il avait faite dans les années 80, qui parlait de l'ère Taisho également, où on voyait ces personnes qui étaient complètement occidentalisées et aussi sous un couvert de raffinement, mais qui en fait étaient aussi très, 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 très pervers. La scène, le serpent, c'est évidemment un objet symbolique, mais c'est un objet qui fait sens dans ce truc-là. Alors, évidemment, on ne peut pas comparer l'esthétique de Mademoiselle à l'esthétique des films de Suzuki, parce que Park Chan-wook, c'est beaucoup plus sombre. Il n'y a quasiment aucune lumière dans le film. C'est comme si c'était vraiment des boudoirs sadiens. C'est vraiment ça. Alors, et puis, sous ce couvert d'élitisme et des gens qui se montent du col, ce notariat coréen ou nippono-coréen, en fait, à la fin, c'est là où le film est un petit peu féministe, c'est que c'est un film qui est complètement anti-patriarcat, et qu'en fait, tous ces notaires-là sont complètement ridiculisés par les femmes. Il y a une des scènes où un des types se fait quand même fouetter les fesses, juste par perversion, mais le type se fait dominer totalement, en fait, sa condition, ça revient à ce que tu disais, Elvire, c'est que la condition justement de regard d'homme sur les femmes, c'est que là, il est complètement retourné, puisque le type, dans sa propre perversion et sa propre vision de la femme, se soumet, quitte à se faire fouetter pour sa propre excitation d'homme.
Oui, il y a des délires d'homme maso, hein.
Oui, mais justement, c'est pas nouveau, quoi. Le monde occidentalité, occidentalisé, que tu vois, il est aussi dans les romans de Yumeno et de Rampo et d'Ogawa, et justement, les Japonais se le sont appropriés. Et c'est ce monde qui est décrit dans le Park Chan-wook. Et donc, c'est un monde japonais, mais c'est le Japon qui a appris l'Occident, mais c'est quand même un monde japonais. Parce que l'Erogo, c'est un produit de l'art Taisho, justement.
Mais du coup, Park Chan-wook, dans le film, se place comment par rapport à cet univers?
Est-ce qu'il est dans la critique cette culture totalement, et ça place le film sur un pied nationaliste, en fait, comme le Kim Ji-woon, on en parlera plus tard.
Juste un.
Et pour revenir sur ce que disait Marc, en fait, dans le film, on remarque que les moments les plus érotiques, en fait, c'est les moments entre les deux personnages féminins, mais il n'y a aucune scène vraiment où il y a un personnage masculin qui domine un personnage féminin ou physiquement.
On pourrait y croire, par exemple, lors de la nuit de noces, et en fait,
même la fin où il y a un début de viol, et puis finalement elle l'a empoisonné, et ça s'arrête là. Ou même la scène dont parlait Marc, où ça commence comme. La nièce qui va se faire fouetter, et puis finalement c'est le personnage masculin. Donc à chaque moment où il pourrait avoir une scène tendancieuse où il y a de soumission d'un personnage féminin, et ça c'est complètement escamoté. Même les scènes de lecture, finalement, avec le ton qu'elle prend, la manière dont c'est filmé, on voit qu'elle prend le dessus sur tous les hommes.
Oui, je me rappelle d'un des jeunes japonais qui paraît totalement ridicule à essayer de cacher une érection avec un chapeau qui est à côté. Enfin, on peut pas dire que les hommes soient vraiment mis en valeur non plus dans le film.
Ils sont ridiculisés.
Ils sont ridiculisés. De toute façon, le final, les deux, protagonistes masculins se retrouvent face à face dans une scène de torture Alors bon, là, c'est, on revient sur les images types de l'imagerie de parchemouk, voilà. C'est vraiment ces deux hommes castrés, quoi. Et il y en a un qui essaie de se nourrir de l'autre en disant, mais est-ce que, comment elle était, comment était son sexe et tout ça, comment vous avez fait l'amour, et puis l'autre qui dit, mais non, mais on raconte pas ce genre de choses, il veut jouer le gentleman alors qu'il s'est rien passé, quoi. Et ils sont tous les deux plus pathétiques l'un que l'autre, quoi. Vraiment, deux types qui sont passés à complètement à côté des femmes parce que voilà,
parce que prisonnier d'un type de fantasme, exactement. Justement véhiculé par toute une imagerie traditionnelle, voilà. De la littérature, l'iconographie, etc.
Lina.
Oui, alors je suis assez d'accord avec ce qui est dit, et je vois en quoi on peut voir un discours féministe dans le film. Voilà, bon, par rapport à la scène où ils détruisent la bibliothèque, par rapport à toutes ces scènes où les femmes finalement renversent un peu ce pouvoir qu'elles ont sur les hommes par rapport à leur regard, c'est un peu une dialectique du maître et de l'esclave. Voilà, elles savent quelle force a été faite aux hommes, elles s'en servent pour arriver à leur fin, pour voilà, dépasser, renverser ce patriarcat. Après, là où ça, je ne dirais pas que ça me dérange, parce que je n'attends rien en termes de discours féministe de ce film, mais là où je n'arriverai pas à dire que c'est un film féministe, c'est que pour moi, dans son imagerie, voilà, il contredit ça. On est quand même effectivement à travers un regard masculin. La sexualité est quand même féminine, est montrée comme un objet de fantasme. Moi, il y a certaines scènes, je ne dirais pas qu'elles m'ont choquée, mais effectivement, je les trouvais peut-être un petit peu superflues, ou en tout cas dans la manière dont elles étaient filmées, sans qu'elles aillent vraiment trop loin. Mais voilà, ça m'a un petit peu dérangée, ça m'a un petit peu donné l'impression de voyeurisme.
Le problème, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, n'est pas au niveau du scénario, au niveau théorique et au niveau référentiel, c'est au niveau de la présence, au niveau de la mise en scène et la patte de Park Chan-wook, en fait.
Moi, personnellement, ça me pose pas de problème, mais après, bon, c'est un point de vue purement masculin. Oui, mais moi, j'aime beaucoup, en fait, la scène de sexe qui est montrée deux fois, et je trouve très intéressant parce que dans la narration, elle permet vraiment de, outre le fait de montrer un coup de théâtre, vraiment c'est montrer en fait, le désir grimpé entre les deux femmes. La première partie en fait, est montrée de manière très, très pudique, c'est qu'on ne verra même pas un bout de téton, quoi que ce soit. C'est, il planque à chaque fois toutes les parties, on sait ce qui se passe, c'est vraiment, il garde toujours la juste distance. Et quand on voit le deuxième point de vue dans la deuxième partie, là carrément on est vraiment dans un érotisme très démonstratif, clairement. Hein, voilà, c'est deux femmes nues dans un lit qui font quelques positions. Voilà, mais en tout cas, ce qui est intéressant, c'est que du fait qu'il montre que autant dans la première on pouvait soupçonner qu'il y en a une qui est en train de manipuler l'autre, dans l'autre en gros elle jouit sa l'unisson, et c'est clair qu'en vérité leur
qui arrive jamais, quoi. Désolé.
Oh putain, c'est désolé. Mais Elvire, c'est du cinéma déjà, oui, d'une part, non, et Parchemouk, qu'il a jamais fait, c'est pas du documentaire, faut non, arrêter, sais, quoi. Il est toujours en train de styliser, comment dire, son cinéma.
Je suis d'accord avec toi sur le fond, et j'ai toujours dit que le film était sublime du début à la fin, d'un point de vue esthétique, il n'y avait rien à jeter. Et là, je fais l'avocat du diable parce que les gens qui me connaissent savent très bien que je suis tout sauf féministe. Enfin, je suis moins féministe que certains hommes autour de cette table. On en vient quand même à dire, en fait, que dans ce film, que la femme a le pouvoir par le sexe.
Pas forcément.
Pas du tout. Par la manipulation. Encore une fois, elle utilise.
Par la manipulation.
Elle utilise la séduction plus que le sexe.
Non, mais l'intelligence.
Et la frustration.
C'est un regard très masculin de dire ça.
Un regard très, très, bien sûr.
La femme a le pouvoir sur l'oreiller.
C'est une femme qui avait filmé, est-ce qu'on aurait dit que c'est un regard masculin? Je comprends pas votre regard de.
Malheureusement,
c'est. Mais c'est pas grave, enfin, moi, ça change rien en qualité
de. Mais c'est de deux femmes, et malheureusement, vu leur situation, n'ont pas d'autre
moyen. Il faut aussi se remettre, je pense, dans le contexte historique.
Je suis d'accord. Là, je fais l'avocat du diable. C'est vraiment beaucoup provoqué, puisque ça m'a pas du tout.
Ça, en fait, si je dis ça, c'est que le film interroge le regard masculin, et après, je pense que ça serait plus difficile à tenir de dire c'est un regard masculin si le film avait été fait par une réalisatrice, mais moi, ça me semble absolument impossible.
Pour comparer avec un film qui est sorti cette année, qui a un sujet très, très proche, voilà, avec deux femmes qui... par amour, se soustrait à un monde de domination masculine. Il y a Carole de Todd Haynes qui est sorti en début d'année. Et c'est vrai que la scène d'amour n'est pas du tout la même approche que ça. C'est beaucoup
après,
plus
c'est
sobre.
C'est pas les scènes d'amour du
Non, en fait, je vais dans ton sens, où la scène dans le Todd Haynes est beaucoup plus sobre que ça, le film est beaucoup plus distant, il laisse beaucoup plus... tout en étant très léché, mais il est beaucoup moins démonstratif.
Mais Todd, c'est un homme, il est beaucoup moins démonstratif. Qui ne sont pas racoleuses, à mon avis, non plus, mais qui sont exactement les scènes racoleuses qui sont narrées dans les livres qu'elle lit au notariat japonais-coréen. Voilà, c'est exactement ça.
Mais pour moi, il y a une contradiction performative dans le fait de les détruire, alors pour une question soit nationaliste, soit féministe, et le fait de les encourager dans la dernière scène, c'est vraiment la dernière scène qui me pose problème.
C'est la dernière scène qui pose problème.
Et s'il n'y avait pas cette scène, je trouverais le film tout à fait cohérent. Et j'aurais pas ce problème, je pense qu'on n'aurait même pas ce débat d'ailleurs sur le féminisme, sur le nationalisme du film.
Moi, le problème, c'est cette scène pose même
qui
pas
est
vraiment, en fait,
un stéréotype du regard masculin qui redevient dominant parce que c'est une scène qui sert à exciter le spectateur masculin. Et quelle que soit la théorie autour des boules de geisha, qui reprennent effectivement une arme masculine sur des personnages féminins.
De nombreuses femmes utilisent les boules de geisha.
Non, mais c'est le cadre du film qui
m'entend. En fait,
c'est pas la question.
C'est
pas une question scénaristique.
C'est
ça, voilà. Maintenant,
on
s'est cadré.
À l'origine, c'est un objet de torture. Là, je pense qu'il y a arnaque.
C'était aussi le propos du film.
C'est objet de torture dans le film.
Dans le film.
Dans une scène du film.
Dans une scène du film.
À la base, c'est un objet de plaisir.
C'est un objet de plaisir. Moi, là où je suis pas d'accord, et je trouve effectivement que c'est grotesque, c'est de faire croire qu'elles reprennent le pouvoir en détournant l'usage d'un objet de torture. On voit dès la première scène que c'est pas... On connaît cet objet, donc on sait que c'est pas un objet de torture. Le réalisateur invente un prétexte pour... Alors après, qu'il veuille dire qu'elles reprennent, etc., moi, j'ai aucun problème. Au contraire, moi, je suis très contente pour elle. Mais je trouve que c'était pas le bon objet.
Si, après,
mais le grotesque, c'est pas... Alors, l'esthétique décadente, justement,
c'est
Yoav Mirbeau,
plus
quoi,
de la torture que de l'humiliation, par contre. Ou du rabaissement.
Oui, c'est vraiment l'humiliation.
Mais en fait, cette scène de fin, en fait, c'est un peu ça. Il aurait peut-être fallu que le symbolisme de la boule de geisha revienne, comme c'est le cas, mais qu'il n'y ait pas tout simplement cette espèce de scène très sexualisée, justement, avec les deux femmes, mais qu'il y a un truc plus subtil, quoi.
Voilà, un cadrage.
Peut-être un truc un peu plus subtil.
C'est vrai que c'est pas très
subtil. Voilà,
il n'y a rien à faire. Mais j'aime bien, il y a une espèce de grande symétrie et tout.
Mais je pense que Park Chan-wook n'est pas un réalisateur subtil aussi, tout simplement. Il a adoré le symbolisme, il adore le formalisme.
Sachant qu'il l'a déjà fait, l'appropriation des symboles masculins dans la scène précédente. Le personnage féminin porte une moustache, voilà. Elle est masculinisée, donc du coup on sort déjà de ça. La dernière scène ne fait que répéter ça tout en contredisant ce qu'on pourrait penser être le discours du film, et à mon sens ne fait que brosser un peu dans le sens du poil le spectateur masculin. Une justification théorique, on pouvait en dire.
Ouais, mais une espèce
en même temps, je suis bien émoustillé par ce film.
La dernière séquence, moi je la trouve pas émoustillante. Je la trouve belle. Enfin, il y a un côté lumineux, épanoui dans la sexualité. La deuxième reprise de la première scène érotique qui avait vraiment un côté défouloir sexuel. L'ultime séquence, je la trouve juste.
De toute façon, il apporte une forme de
Oui, mais elle s'arrête avant l'acte.
C'est ça. Bah, le dernier plan, quand on voit la lune et on entend le tintement de la boule de geisha, il y a une forme d'ironie là-dedans, du genre, faut pas prendre la chose trop au sérieux, quoi.
Il y a ça aussi, puis c'est vrai qu'il y a ce côté très symétrique qui est appuyé, qui renvoie une précédente scène du film, où les femmes n'arrivaient pas à avoir un reflet, elles sont, pas bateau à dos, mais une est en miroir de l'autre, en miroir déformé, enfin, elles sont de dos à la caméra chacune avec un chignon. Et à la fin du film, elles arrivent à retrouver cette symétrie.
Oui, mais du coup, est-ce que en devenant juste des objets esthétiques symétriques, les personnages féminins ne deviennent pas justement des objets du cinéma de Park Chan-wook? Donc là, on est complètement à l'inverse d'une...
Mais les autres sont aussi les personnages masculins. J'ai pas l'impression
les personnages masculins sont plus des objets du cinéma de Park Chan-wook avec le côté exacerbé de Park Chan-wook. Et moi, c'est plus l'avant-dernière séquence.
C'est comme ça, tout devient objet, en fait. C'est tellement stylisé et tellement bien travaillé.
Le monde des objets.
Conclusion magnifique.
Un film qui est...
Alors, je crois que finalement, le débat ne sera jamais clos sur Mademoiselle.
Tant mieux, c'est ce qui fait aussi un bon film. Et on a tous des quasiment tous quelques réserves.
Ah, mais j'ai des. Enfin, mais quoi qu'il en soit, je pense qu'avec Marquin, on a des réserves aussi.
Personne n'a dit que ce film était nul et on a tous reconnu quoi, mais les qualités de ce film.
En tout cas, parler une demi-heure. Presque que d'un dernier plan d'un film.
C'est déjà la
preuve que le film est intéressant.
Je crois que cette scène, quand Park Chan-wook est venu à Paris, tous les journalistes ont posé, sans exception, des questions sur cette dernière scène. C'est vraiment cette scène-là qui a marqué tout le monde. Donc, on n'est pas les seuls à se poser des questions.
C'est pas celle-là qui m'a marqué.
Ça a interrogé en tout cas les journalistes.
Parce qu'ils ne savent pas très bien comment se placer par rapport à cette scène.
Ça a provoqué beaucoup d'interrogations et il a répondu à tous les journalistes sur cette question.
Alors, outre Mademoiselle de Park Chan-wook que vous pouvez voir en salle depuis le 1er novembre dernier, l'autre actualité de cette fin d'année pour le cinéma coréen en France, c'est la sortie de 3 Yong Sang-ho. On va commencer chronologiquement. Il y a The King of Pigs qui sort en DVD le 17 décembre. Qui veut présenter le film? Kefren, tu l'as vu il y a pas trop longtemps, je crois.
The King of Pigs, ça raconte quoi? Ça raconte l'histoire d'un homme un peu au bout du rouleau, enfin, au bout de sa vie, et qui rencontre au détour d'une ruelle un ami une ancienne connaissance de l'école primaire qui l'invite à boire
Il l'appelle en fait, il le rencontre pas fortuitement.
Et donc, qu'il l'invite et pendant qu'ils discutent, il se remémore le fameux temps de l'école primaire et leur rencontre avec celui qu'ils appellent le roi des cochons. Et c'était un autre élève de l'école qui les a choqués. Du moins qui les a traumatisés jusqu'au moment de cette rencontre qui est justement marquée encore une fois par ce personnage du roi des cochons. Et le film narre leur chronique et leur souffrance durant l'école primaire accompagnée de cet élève, le roi des cochons, et d'autres élèves. Et c'est une sorte de microcosme de la société coréenne que représente cette classe. Et on y voit les différents jeux de domination, de dominé, de hiérarchie qui peut exister dans la société coréenne.
Finalement, ce qu'on va retrouver dans tout le cinéma de Yong Sang-ho, qui ensuite a fait The Fake, puis Soul Station, et enfin Dernier Train pour Busan, qui est sorti cet été, et qui sort aussi en vidéo avec Soul Station le 17 décembre. Célia.
Alors, je voulais rebondir justement à la remarque de Kefren. Pourquoi c'est important en fait cette hiérarchie? C'est pour rappel, la société coréenne est confucéenne. Et que même si vous avez un an de différence avec votre interlocuteur, vous ne vous adressez pas du tout de la même façon. Donc quand vous êtes dans une classe de garçons et que vous pouvez avoir des redoublants ou juste des personnes qui sont nées à quelques mois de différence, s'instaurent ces jeux de domination parce que tout de suite on va devoir prononcer un registre de langage très particulier en s'adressant de son aîné au puîné, de petit frère ou grand frère. Et donc tout est régi de cette façon. Et King of Pigs, en fait, ça résonne avec l'adolescence du réalisateur Yoon Sang-ho, qui a été très marqué en fait par la maltraitance des enfants dans le système scolaire. Et tous ces films marque en fait une période de sa vie et qui est aussi en résonance avec le mandat d'un président. Et King of Pigs, c'était le mandat de Ro, et il y avait des grands problèmes liés justement à cette maltraitance des adolescents, et c'est pourquoi il avait voulu faire ce film King of Pigs sur ce sujet. Et on retrouve d'autres sujets qui l'ont marqué, donc avec The Fake aussi, où c'était en fait des propriétaires terriens qui ont été spoliés sous le mandat de Lim Yong-bak, qu'on avait surnommé le bulldozer, hein, parce qu'il avait vraiment rasé des régions entières. Il y avait eu un scandale énorme, le scandale des Quatre Rivières,
où en fait beaucoup de propriétaires terriens se sont fait voler leurs terres, n'ont jamais vu la couleur de l'argent en vendant leur terrain, et ça a été aussi un désastre écologique absolument incroyable. Et dans The Fake, ça narre justement comment un village se fait tromper par un petit groupe de pseudo-pasteurs évangélistes pour sauver l'âme des villageois. Il faut se cotiser pour construire une église qui ne verra malheureusement jamais le jour. Et chaque film est en résonance avec une temporalité de la vie du réalisateur, et Seoul Station, qui va sortir en bonus de l'édition Blu-ray de Train to Busan, c'est aussi ça. C'est parler du mandat de Park Geun-hye, de comment les mesures sécuritaires en fait sont complètement aliénantes pour la population, et de comment vit maintenant la génération actuelle sous Park Geun-hye. Et comment ça rend fou, comment ça rend les gens zombies, tout simplement. Et donc c'est ça qu'il faut voir toujours en sous-texte dans les films de Yoon Sang-ho, c'est l'aspect vraiment politique et social. Il y a vraiment en lui une colère, et ça je l'avais évoqué quand je l'ai rencontré il y a 2 semaines à Séoul. Il est déjà très très en colère parce que les Coréens entre eux ne parlent pas de ces sujets. Donc pourquoi il fait ces films-là? C'est juste pour taper d'un point sur la table en disant « Mais regardez la réalité en face. Je vous fais un film par décennie, je vous parle d'un problème par décennie, et vous préférez parler de combien j'ai gagné, est-ce que je vis à Gangnam, est-ce que mon gamin va être dans telle université, mais les problèmes réels de maintenant qui vont impacter la génération d'après. » Alors, tout le monde s'en fout.
Alors, du coup, c'est vrai que tu as parlé de ces 3 films d'animation, donc King of Pigs, The Fake et Soul Station. Et c'est vrai qu'on en a longuement parlé du podcast estival sur le dernier train pour Busan. Et depuis mai d'ailleurs, on avait l'impression qu'il y avait. Alors, pas une démission, parce qu'il y a toujours un propos politique dans le dernier train pour Busan, mais où il était obligé de policer son discours.
Et son prochain sera certainement la même chose que c'est un film live.
La verve politique qu'il peut y avoir dans ces films d'animation. Dans ces films live,
il
y en a qu'un. Le prochain, on verra.
Le film live, c'est un peu, on va dire, l'exception qui fait la règle pour plein de choses. Quand il a décidé de faire Seoul Station, le studio d'Adacho, dont il est le directeur, se disait, tiens, je vais faire un one shot sur la société contemporaine, sur problèmes de sécurité, etc., etc. C'est seulement en cours de production en fait de Seoul Station, il me racontait qu'on lui a proposé le sujet de Dernier Train pour Busan, et que sa société de production et distribution New lui a dit, de toute façon avec tes films d'animation qui sont certes très bien puisque nous sommes partenaires et nous aimons ce que tu fais, ça ramène pas du public. Est-ce que tu as envie de faire enfin un projet qui va ramener du public? Maintenant, il va y avoir un sujet que tu vas pouvoir traiter aussi de fond que tu aimes, parce qu'il y a vraiment un sous-texte social et politique qui t'est cher. Mais l'objectif de ce film-là, c'est on te donne des gros moyens pour que tu aies un gros nombre d'entrées. Ça, c'était le deal de départ. Yoon, très curieux, et très avenant de nouvelles expériences, parce qu'il adore tester, et c'est ça que je retiens de mon interview avec lui, c'est qu'il adore tester. Il s'est dit, mais pourquoi pas, c'est mon distributeur, en plus producteur, qui me propose ça, donc déjà, un, je le connais, et deux, pourquoi pas, essayons un nouveau projet, une nouvelle mesure. Donc effectivement, il n'a pas fait tout ce qu'il voulait, mais pour lui, c'était un terrain de jeu incroyable. Il a fait au mieux qu'il a pu. Et pour un petit budget, je trouve qu'il s'est très bien débrouillé, le film est très efficace. Mais on sent de toute façon quand même que ces thématiques récurrentes sont là, donc il ne s'est pas trahi. En revanche, une chose qui était sûre et qui m'a redite, c'est que maintenant qu'il a montré qu'il était capable de faire pratiquement 12 millions d'entrées, sa société de distribution attend de lui qu'il continue de faire des films là. Et là, il a été très clair. Il n'est pas
des
tellement d'accord.
Live.
Son prochain est un film live.
Oui,
Psychokinesis, c'est un film live.
Justement, j'en viens. C'est que, en fait, il est un peu mis au pied du mur, parce que comme il fait des films live qui cartonnent, on ne lui demande que ça. Et il n'est pas tout à fait d'accord, parce que lui, il a dans les caisses plein de projets d'animation, et c'est ça qu'il veut faire en priorité. Et le problème, c'est qu'on lui avance pas l'argent pour ces projets-là. Donc, il est obligé de faire des films live.
Peut-être qu'après un carton comme Dernier Train pour Busan, après 12 millions de spectateurs coréens, son prochain, on verra à quoi ça ressemble, peut-être qu'il cartonnera, ça suffit. Enfin, il mettra peut-être suffisamment d'argent dans sa poche pour pouvoir... Enfin, moi, j'espère vraiment qu'il retourne à l'animation, en fait.
Alors, de toute façon, l'animation, là, quand on voit, en fait, les chiffres, pour The King of Pinks, quand c'était sorti en 2011, sur 25 écrans, il y avait à peine 20 000 entrées. Sur The Fake, sorti en 2013, sur 76 écrans, il y avait à peine 23 000 entrées. La technique marketing, c'était de justement faire sortir d'abord Train to Busan pour drainer le maximum de spectateurs afin de faire connaître Seoul Station, qui a été vendu d'un point de vue market comme un préquel à un sequel, ce qui n'est pas du tout le cas.
Là, tu parles d'une nationalement en Corée aussi.
Oui, et Seoul Station, ça a fonctionné ou pas ?
Seoul Station, ça n'a pas bien fonctionné.
Non, mais par rapport aux autres, ça va. Par rapport aux autres films d'animation, ça va mieux.
Seoul Station, c'est...
Bien éteint de penser tout. Pour quand même, c'était une locomotive.
Voilà, c'était une locomotive. Alors que ce n'était pas du tout prévu pour que ce soit un diptyque. C'est vraiment le marketing de la société de distribution qui l'a conçu comme ça.
Parce que finalement, quand on voit les deux films, on se dit mais c'est quoi ce délire de nous dire que ça se passe un jour après, enfin, ça n'a...
Voilà. Mais toujours est-il que c'était...
Et sans oublier ce personnage du clochard dans Dernier Train pour Busan.
Voilà, le petit rappel.
C'était une stratégie commerciale de pouvoir lui drainer du spectateur pour son film d'animation, parce que ses films d'animation ne drainent pas de spectateur. Là, on peut dire que ça a marché. Parce qu'il a réussi à renflouer son budget. Il en a fait pour à peu près 500 000 euros de budget. Il a fait 1 million de recettes. Ouais. Et pour Seoul Station, en Corée, quand il est sorti le 17 août, sur 440 écrans, ce qui est quand même assez important, il a fait 147 000 euros en 31 entrées. Donc, c'est petit pour un film d'animation, parce que pour moi, l'histoire se vaut d'être vue. Mais c'est pas autant qu'on aurait espéré suite au méga succès de Train to Busan.
Donc il est peut-être pas encore prêt de revenir à l'animation, quoi. Faudra, alors, en fait, son prochain film live déterminera peut-être son retour à l'animation, suivant ce qu'il engrange comme recette, quoi.
Bah, s'il fait pas un succès, il peut aussi revenir à l'animation.
Il va continuer.
Mais bon, à un moment donné, il a besoin de bouffer aussi, quoi.
Mais je pense que le succès appelle le succès, et c'est très difficile de revenir à des petits budgets en sachant pertinemment que c'est pas
le syndrome Peter Jackson.
Ouais, mais ce serait bien qu'il revienne. L'animation.
Non, mais c'est son souhait le plus cher.
Et, ça, et c'est notre choix le plus cher
on
aussi.
On en a discuté. Et lui, ce qui le botte et ce qui le motive et ce qui fait venir à Dada Show tous les matins, c'est son équipe de 10 personnes, parce qu'ils sont 10. Mmh. C'est ses histoires qu'il a dans ses cartons où on lui a demandé de décaler. C'est la phrase qu'il m'a dite. Je suis obligée de décaler ses projets d'animation. Je suis obligée de faire un live. Ça me plaît pas trop, mais jamais je ne ferai par contre de compromis là-dessus. Je continuerai l'animation parce que c'est ça qui le botte. Et il peut parler librement de tous ces sujets avec cœur. C'est juste que on ne verra peut-être pas en 2017 ou pas encore en 2018 son prochain film d'animation. Mais c'est quelqu'un qui va continuer de toute façon. C'est un studio qui est prometteur. Donc ils font d'autres choses. Ils font pas que des longs métrages, ce que on a vu pendant la visite.
C'est un studio que tu as pu visiter, c'est ça,
Dada Show. C'est un studio que j'ai pu visiter. Donc c'est pour ça déjà, ils sont tout jeunes. Ça m'avait vraiment frappé. Ils ont vraiment la petite vingtaine. Ils sont adorables. Il y a autant de filles que de garçons.
C'est bien.
Et ils travaillent sur d'autres projets. Par exemple, quand j'avais fait la visite, ils étaient en train de produire des contenus pour l'écran X en 3 écrans contigus de CGV pour avoir une expérience 3D sans lunettes. D'accord. Donc celui qui était sur ce projet-là est aussi le réalisateur du prochain film d'animation qui vont sortir, qui s'appelle La classe terminale, qui est un film érotique. Qui est déjà
on y revient toujours.
Voilà. classé pour adultes. donc il y a déjà le marketing qui s'y met, mais en fait ce film sera en fait prévu pour les smartphones, donc pareil, c'est un test qu'il veut faire, et donc il est très très curieux des résultats que ça va avoir. Donc je pense qu'il y a plein de personnes qui vont s'échanger ce contenu. Je pense que ça va faire un tabac.
Tu m'étonnes.
Mais voilà, il est obligé de se réinventer, d'innover, parce que comme il lâchera pas l'animation, il dit ben, la seule façon de continuer à faire l'animation, ça va faire de faire des petits contenus mobiles, parce que ben, c'est beaucoup plus simple d'accès, plus facile à partager, et c'est comme ça qu'il faut qu'il se réinvente pour continuer à faire ce qu'il aime.
C'est plus frustrant pour les spectateurs, par contre.
Bah les rares spectateurs qui... Enfin, c'est vrai qu'on a pu découvrir sur grand écran Seoul Station au FCP.
Qui
super. Et effectivement, qui,
et que Elias, qui n'est pas là ailleurs, ce soir, qui n'a pas aimé, mais...
Non, il y en a d'autres qui n'ont pas forcément aimé.
Ah, ouais, mais lui, il n'avait vraiment pas aimé, lui.
Anthony, tu es sur Seoul Station, alors
vas-y. Bon, on en parlera peut-être dans le focus.
Non, c'est maintenant.
Non, voilà, le gros problème que j'ai sur Seoul Station et que j'avais sur The Fake, c'est que d'un pur point de vue théorique, scénaristique, c'est passionnant. Le résultat à l'image ne l'est
ah, oui,
très peu.
T'as eu le même problème sur King of Kings.
Alors, King of Kings, je ne l'ai pas vu. D'accord. J'ai vu que The Fake et Seoul Station. Et après, l'autre gros problème que j'ai, c'est qu'honnêtement, je trouve ça moche.
Je comprends tout à fait. Mais je suis d'accord avec toi, c'est pas beau.
Cette laideur associé à cette approche trop théorique fait que pour Seoul Station,
tu vas adorer les films érotiques.
J'ai aucune empathie pour les personnages. Donc un thriller ou suspense ou film fantastique où je n'ai pas de crainte pour la survie des personnages, bah c'est raté. Et donc même si le rebondissement qui arrive dans la dernière ligne droite du film est génial sur le papier, ça marche pas, on n'y croit pas, la psychologie ne fonctionne pas. Et c'était pareil dans The Fake, qui est une relecture géniale de Elmer Gantry de Richard Brooks, mais quand on regarde le film, on est un peu atterré par la caractérisation des personnages.
Je suis d'accord sur le côté esthétique, moi aussi je trouve ça moche en fait, esthétiquement c'est moche, mais c'est sa patte en fait.
C'est pas un cinéma qui recherche la beauté.
Et je trouve que ça colle tellement bien au propos, voilà, qui est moche aussi, le propos.
Il
décrit un monde dégueulasse, en fait.
Ouais, mais là, je pense qu'il veut dire, c'est même, basiquement, même au niveau de l'animation.
Oui,
je suis pas d'accord. Dès King of Pigs, il y a la scène quand même de combat sur le toit qui est assez impressionnante d'un point de vue technique et quand on connaît son budget. Et après, oui, c'est pas, on a tendance à associer le cinéma d'animation à une recherche de beauté esthétique.
Ouais. Non, mais là, c'est pas beauté, c'est vraiment la... quand on voit les personnages courir dans Seoul Station.
Vous êtes trop
ambitieux. L'anime est vraiment très moche.
J'allais dire, on a une image de Ghibli aussi, où c'est
magnifique. Non, mais même pas ça, mais pas ça. C'est vraiment le son d'animation.
Le chara-design est pas beau.
Il court d'une manière mécanique. C'est un film de zombies.
Des non, les héros.
Dans tout le film, on a une indistinction entre les infectés, les zombies et les personnages qui sont des personnages.
Et même si je trouve ça moche.
Le fils qui court comme ça, ça me semble cohérent.
Ça marche pour certains personnages, pour les personnages de délaissés, des vagabonds, délaissés pour compte. Ça marche.
Il y a que des.
Mais l'héroïne, non,
en dehors de la société.
Moi, je suis d'accord parce que
même l'héroïne, elle est cassée. À l'intérieur.
Il fait des visages très laids, etc. Dans King of Pigs, qui rappelle justement les cochons, etc. Et c'est pour ça que tous les personnages sont très laids et ressemblent tous à des animaux et des trucs comme ça.
The Fake est un film foncièrement dégueulasse. Enfin, moi, il m'a secoué quand je l'ai vu. Et l'esthétisme de l'animation, elle est parfaitement avec le propos, quoi. C'est dégueulasse du début à la fin. Et
c'est l'animation est trop saccadée, c'est pas bien géré. J'adore, mais c'est pas du tout ma référence en termes d'animation.
Pour le coup, Ghibli fait des personnages qui sont très moches, qui sont repoussants quelquefois. Moi, ça m'avait traumatisé quand j'étais jeune, que je voyais certains personnages, je les trouvais repoussants.
Non, mais le graphisme, le chara-design, j'ai pas le problème, le pur de chara-design, comment dire, de la façon tu vas insérer des personnages dans les plans, les animer. Enfin, vraiment, c'est même ce qu'on peut en pure technique d'animation, les cycles de marche. Tu vois très bien qu'ils n'ont pas assez d'images pour les faire. Et elles sont super saccadées, elles sont mal foutues. Et les personnages, bon voilà, les postures et tout sont pas bien gérées, quoi.
Mais c'est marrant parce que j'ai vu ça dans Seoul Station que j'ai vu là sur grand écran. Et du coup, ça m'a pas gêné parce que je trouvais justement que c'était cohérent avec le propos.
Oui,
avec le propos.
Tous les personnages,
c'est pas grave.
Non, mais moi, ce qui m'intéresse, c'est
la technicité.
Ce que j'apprécie, c'est ce qu'il raconte à travers cette histoire, mais en pure à qualité visuelle, c'est-à-dire d'animation, de graphisme et de réalisation, c'est très moche.
C'est moche raté, c'est moche et il n'y a pas de sous. Ah non, moi c'est moche,
c'est cheap.
Il a une manière où il aurait pu l'utiliser, notamment dans ces grandes rues désertes que les personnages traversent en voiture, où là ça pourrait apporter vraiment quelque chose sur une société qui est déshumanisée, où les gens restent enfermés chez eux, mais moi je peux pas m'empêcher de voir qu'en effet c'est un manque de budget.
Et que le mec c'est pas l'exploiter vraiment habilement. Mais en même temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il n'y a pas de fric pour ces films d'animation.
Et puis je suis un peu d'accord aussi avec ce qu'il dit Anthony au niveau de l'identification, parce que bon, je sais que ça fait partie du propos, mais malgré tout, c'est soit des salauds, soit des victimes. Il n'y a pas de juste milieu.
Ça, c'est une génération.
King of Flix, j'ai eu envie de me pendre.
C'est pareil. The Fake, ça t'a aucun point d'ancrage dans le film, parce que le personnage que tu suis pendant tout le film est un enfoiré de première. Mais c'est le roi des fils de pute.
Mais ça pourrait être vraiment intéressant sur ce côté d'absence de manichéisme, sauf que je sais pas. J'ai pas vu le film depuis sa sortie.
Pourquoi s'identifier à des salauds, c'est pas une question d'identification, mais c'est une question de compréhension.
D'implication. Quand des personnages sont tellement exacerbés dans la psychologie.
Je comprends pas pourquoi vous voulez vous impliquer, c'est pas un cinéma, pourquoi tu veux t'impliquer à des gens qui sont des purs salauds, mais c'est pour ressentir l'empathie pour les personnages, c'est plus simple effectivement.
Mais c'est pas un cinéma qui repose sur de
mais ça repose pas sur l'empathie.
Il fait tout justement pour que vous ne culpabilisez pas pour qu'il y ait
non mais c'est une question de compréhension des personnages.
Mais tu les comprends, t'as dit que c'est très théorique, donc tu les comprends.
Oui, mais en tant que spectateur, au bout d'un moment, je sors de ce côté théorisation et j'ai quand même envie de voir un film.
Et ça veut dire quoi, un film dans lequel les personnages ne sont pas cohérents,
bah ça me fait sortir du film.
Mais ils sont cohérents, t'as dit que c'était très bon.
Est-ce que la vie est cohérente? On va prendre le personnage du père dans Seoul Station, s'il vous plaît. Théoriquement, il fonctionne, mais narrativement et psychologiquement, ce personnage-là a aucune raison de se comporter comme ça. Il y a une attaque de zombies, pourquoi il se barre pas tout simplement plutôt que d'essayer de retrouver cette jeune femme, alors que vraiment il n'a aucune accroche avec elle, il va risquer sa vie.
Si, il est dans une accroche purement mercantile. On l'apprend à la fin.
Mais ça ne justifie pas.
À l'exploiter et il a un espèce d'attachement psychologique qui est complètement fou.
Pour moi, ce qu'ils sont capables de faire pour de l'argent sur cette terre.
Non, mais en plus, ça n'est pas ça. Sur toute la première partie, il n'y a aucun moment où un pseudo pétage de plomb pourrait indiquer ça.
C'est un personnage très violent dès le départ. Ouais.
Oui, mais comme beaucoup de Coréens, dans ce côté justement patriarcal, etc.
Il tue quand même quelqu'un sans froid, comme ça, au début du film, la meuf, elle vient, il la massacre et tout, comme ça. Et ils savent pas que c'est une épidémie de zombies. Il y a une meuf qui vient les attaquer, il la massacre dans la chambre. Et même le mec, il est étonné, il commence à avoir peur de lui.
Oui, enfin, personne comme ça vient me sauter dessus, je pense que je réagirais pas. Il faut partir du postulat,
c'est vraiment, il met vraiment en scène un monde de salauds, c'est tout quoi. Et si tu pars de ce postulat-là, ça devient cohérent en fait.
Bah, l'absence de nuance fait que ça me fait sortir du film.
Je peux comprendre.
Alors, je vais remettre un petit peu en perspective, déjà, Yoon Sang-ho, c'est pas un animateur, c'est un peintre. Si vous regardez attentivement ses films, là où il excelle, c'est dans les paysages, c'est dans la colorisation, c'est vraiment ce genre de colorisation. C'est vrai que ça peut être rebutant. Moi, je sais que quelque chose m'avait fait un peu rire nerveusement à Annecy quand j'avais vu la première fois Soul Station, parce que j'avais aussi le public qui réagissait, c'est que la jeune fille, dans sa façon de pleurer, est totalement non crédible pour nous. Donc tout public français, chaque fois qu'elle chouinait, avait du mal et n'était pas du tout en empathie avec ce personnage. Mais j'ai vu d'autres films, justement, coréens au BIF, où j'ai entendu des filles chouiner. Ben, c'est pareil. Donc c'est quand j'ai revu pour la troisième ou quatrième fois Seoul Station ou FFCP que je lui dis, ben, en fait, c'est pas déconnant la façon dont il a fait pleurer cette fille. Parce que c'est comme ça qu'elle pleure les.
Ah non, mais ça, c'est le personnage féminin m'a pas choqué. Hein.
Mais je sais que c'est quelque chose qui fait qu'on la croit pas trop, en fait, dans ce personnage. Aussi, ce qu'on a évoqué avec Yoon, c'est que cette jeune fille, c'est une vraie jeune fille dans la vraie vie. Et le salaud dans l'histoire, le premier, c'est quand même son petit copain.
Et ce qui m'expliquait, c'est que quand il est allé à Seoul Station, qui est le cœur économique de la ville, quand il a vu tous ces SDF, il est tombé sur un groupe de jeunes et il a vu une jeune fille, et c'est avec elle qu'il a travaillé en fait le scénario de Seoul Station. Il s'est inspiré de sa vie. Et cette jeune fille, en fait, elle était utilisée réellement comme produit par les autres SDF.
Mais ça, je ne mets vraiment pas en cause l'ancrage social du film.
C'est pas l'ancrage, en fait. Je voulais dire que je voulais rebondir par rapport au salaud du proxénète qu'on croit être son père, mais qui n'est pas son père. Et en fait, le premier salaud, c'est ce jeune homme, parce qu'il y a quelque chose d'assez incroyable que j'ai découvert dans mon interview, c'est qu'il me disait que c'est une vraie jeune fille que j'ai pêchée dans la rue et qui se fait manipuler, utiliser comme prostituée alors qu'elle est mineure et qu'elle ne trouvait rien d'autre pour survivre que de continuer à être utilisée par d'autres mineurs. Moi, j'ai trouvé ça fou, d'une extrême violence. Il disait, c'est ça qui me rend dingue dans mon pays et que je ne veux pas pour mon enfant, parce qu'il est récemment papa, c'est... Il faut qu'on parle de ça, il faut qu'on parle de ces jeunes qu'on laisse à l'abandon, qui n'a aucun parent pour s'occuper d'eux, donc ça rebondit avec The Fake, où il y a une démission des parents, etc. etc. Mais on peut lui trouver plein de défauts, en tout cas esthétiques, parce que ce n'est pas son truc déjà à la base, mais je sais que sur grand écran, ça peut faire bizarre, effectivement, ces zombies qu'on voit répéter en boucle la même boucle. Mais pour moi, ce qui m'a vraiment séduite, c'est on va jusqu'au bout dans la noirceur. Ça, c'est sûr. Et donc, comme disaient Elvire et Victor, le graphisme est cohérent avec cette noirceur, avec cette saleté. Et je pense que de toute façon... S'il continue à faire des longs métrages d'animation avec cette thématique, il ne s'améliorera pas du tout en animation. Après, il est vrai qu'on sent que c'est cheap. Il y a aussi une notion de budget. Il l'a fait pour moins de 500 000 euros. Ils sont à peine 10 personnes. Il y avait une personne pour le background, une personne pour le VFX, une personne là. Puis point, quoi. Donc, ils ont fait au mieux, au plus vite. Et peut-être qu'on le sent, c'est vrai que ça peut être un défaut. Mais je pense qu'au moins l'œuvre a le mérite d'exister et puis d'être vue.
Alors du coup, c'est un débat qu'on va reprendre l'année prochaine, j'imagine, ou dans 2 ans, quand on verra Psychokinesis donc, sur grand écran ou pas. Entre-temps, on peut découvrir donc Seoul Station et The King of Pigs en DVD le 17 décembre. Donc King of Pigs chez Spectrum Film. Seoul Station avec Dernier Train pour Busan édité par
Arte.
Voilà, et donc nous avons eu la chance de voir Seoul Station et Dernier Train pour Busan sur grand écran au festival du film coréen à Paris, le FFCP, dont nous allons maintenant parler.